Le tête-à-tête Europe 1 avec William Dabb, épidémiologiste et ancien directeur général de la Santé. Nous voulions avoir ce matin le sentiment d'un scientifique sur la démarche d'Emmanuel Macron qui s'empare des réseaux sociaux pour défendre la vaccination contre le Covid.
Le tête-à-tête.
Bonjour William Dabb.
Bonjour à vous.
Épidémiologiste, ancien directeur général de la Santé. Comment vous réagissez tout simplement, William Dabb, en tant que scientifique à la démarche de communication, on va le dire ça comme ça, d'Emmanuel Macron pour inciter à la vaccination?
Bon, alors ce qui est certain, c'est qu'il y a un grand besoin d'informations et d'explications dans le pays. Ça concerne les vaccins, sans aucun doute, aussi bien le pass sanitaire également. Le président a donc décidé de contribuer à cet effort d'information.
C'est un simple exercice de communication ou derrière vous y voyez quand même une légitimité scientifique?
Alors je crois qu'il faut distinguer deux types de questions. Il y a les questions scientifiques et médicales. Sur ces questions-là, il est évident que le chef de l'État ne va pas prétendre avoir des compétences particulières. Au demeurant, ces compétences relèvent d'une expertise collective. Par exemple, quand la Haute Autorité de Santé a fait les priorités de vaccination, c'est le comité technique des vaccinations, une vingtaine d'experts, qui l'a fait. Donc ces questions-là relèvent d'une expertise scientifique collective. Et puis il y a des questions organisationnelles qui relèvent de l'exécutif. Comment commande-t-on les vaccins? À qui commande-t-on les vaccins? Quelle logistique on met en place pour que les vaccins soient disponibles en temps et en heure pour ceux qui veulent se faire vacciner? Ça, ce sont des questions pour lesquelles l'exécutif est d'ailleurs le seul légitime pour y répondre.
Mais est-ce que cette initiative, William Dabb, c'est pas une nouvelle fois la démonstration que le président de la République s'émancipe finalement de la tutelle des experts et qu'il se considère désormais comme le meilleur épidémiologiste de France? Vous savez, c'est la critique qui lui avait été faite quand il avait par exemple repoussé les décisions sur le confinement au sortir de l'hiver dernier.
Je pense que la question est de savoir de quelle procédure le président s'est-il entouré pour répondre aux questions qui vont lui être posées sur Instagram ou TikTok.
C'est-à-dire quelle base scientifique, quelle légitimité scientifique il a?
Eh ben, c'est-à-dire que pour formuler ses réponses, est-ce qu'il s'appuie sur un collège ou plusieurs collèges d'experts? Est-ce qu'il a des spécialistes autour de lui pour le mettre au courant des dernières études? Il en sort tous les jours, lui permettant de répondre de façon pertinente aux questions. Comme je n'ai pas de détails sur la procédure qu'utilisera le président pour répondre aux questions qui lui seront posées, je ne peux pas la juger.
Vous jugerez sur pièce en fonction des réponses qu'il donnera, quoi, finalement, sur les réseaux sociaux. Alors justement, ce dialogue direct par le biais des réseaux sociaux, selon vous, c'est efficace?
Pour dire la franche vérité, je n'ai pas de données d'efficacité. Ce qui est sûr, c'est que dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut utiliser tous les canaux à notre disposition. Votre antenne, la presse écrite, Internet, les réseaux sociaux, chaque catégorie de population à ces canaux privilégiés pour s'informer. Et je pense qu'effectivement, il faut les mobiliser tous.
Alors justement, c'est sur Instagram et sur TikTok que Emmanuel Macron répond donc aux interpellations, répond aux questions. C'est sur les réseaux sociaux aussi que se diffusent les discours anti-vax. C'est une façon de les contrer, parce qu'il dit bien qu'il veut répondre aux fausses informations.
Bon, alors d'abord, quand on regarde les données épidémiologiques actuelles, on voit qu'il y a une véritable explosion de contamination, en particulier chez les 20-29 ans. En fait, ça va un petit peu plus loin, jusqu'à 50 ans. Mais chez les 20-29 ans, c'est une explosion. Et c'est dans cette classe d'âge-là que les réseaux sociaux sont très fréquentés. Il est donc tout à fait logique de mobiliser ces outils. Mmh. Sur les fausses informations, on verra comment le président va y répondre, mais il existe déjà des sites qui sont très bien faits, comme COVAX, qui donnent de l'information actualisée et qui peuvent être utilisés. Mais ces sites, évidemment, ne seront moins consultés par nos jeunes que les réseaux sociaux.
Mais est-ce que plus globalement, ça risque pas d'exaspérer hein, les manifestants qui ont défilé contre le pass sanitaire et le vaccin le week-end dernier? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une surréaction finalement?
Alors vous savez, ça c'est une question de confiance. Je pense que c'est un pari que fait le président de la République. Si on a confiance dans sa parole, alors l'effet peut être positif. Si au contraire on est dans un contexte de défiance, l'effet pourrait être contre-productif. On verra dans les jours qui viennent comment cela réagit sur les réseaux sociaux.
Parce que justement, on pourrait considérer que dans le camp des réfractaires à la vaccination, on va avoir cette initiative, comment dirais-je, comme une sorte de provocation qui risque de susciter un discours encore plus radical, quoi, voyez.
C'est pour ça qu'il est important de faire la différence entre les questions qui sont de l'ordre du politique et les questions qui sont de l'ordre du scientifique. Je pense qu'il est important de ne pas mélanger les deux, parce que si on mélange les deux, alors je pense qu'effectivement, la confiance pourrait être ébranlée. Donc, c'est une distinction qui est vraiment fondamentale à faire. C'est aux médecins et aux collèges d'experts de répondre aux questions scientifiques sur la vaccination. Il y a un certain nombre de fausses idées qui circulent sur le vaccin et qui peuvent tout à fait relever de l'exécutif dans les réponses à donner.
Pour terminer, William Dabb, dans ce discours, Emmanuel Macron, on l'a bien compris, hein, veut développer un discours de pédagogie, de conviction, mais finalement, la vraie solution ne consisterait-elle pas à instaurer purement et simplement la vaccination obligatoire, surtout face à l'augmentation des contagions que vous évoquiez il y a quelques instants?
Bon, premièrement, moi j'ai toujours utilisé l'obligation avec beaucoup de circonspection. Ça semble simple à faire et c'est souvent difficile à organiser sur le terrain. Par exemple, si la vaccination était décrétée obligatoire, il faut vraiment s'assurer que le nombre de doses nécessaires sera disponible, ce qui ne me semble pas être encore tout à fait le cas. Deuxièmement, quand on regarde l'histoire des vaccins, on n'a jamais rendu obligatoire pour la population générale un vaccin dont la durée de protection n'est pas encore connue. Vous vous vaccinez contre la polio, le tétanos, autrefois contre la variole. C'était une protection quasiment pour la vie. Bon, le tétanos, la polio, la coqueluche, on fait un rappel tous les 10 ans. Mais on sait qu'on a une immunité de longue durée. Et donc là, ça peut vraiment se poser. Là, si on lance la vaccination obligatoire, on ne sait pas encore s'il va falloir la répéter tous les ans, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, je pense que c'est une décision qui est actuellement prématurée. Je ne pense pas qu'on a encore fait l'effort pédagogique pour faire comprendre à ces gens le bien fondé d'une vaccination, l'extraordinaire bénéfice-risque dont nous bénéficions avec cet outil.
Alors justement, cet effort de pédagogie, il le fait, le président de la République.
Il y contribue, il a décidé d'y contribuer et voilà, il décide en fonction de ce qu'il pense être l'intérêt du pays. Et donc voilà, écoutons-le.
Merci. Merci William Dabb d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1, ancien directeur général de la santé et épidémiologiste. Merci, bonne journée.
Merci.